Bonsoir.
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 Donc, nous sommes le mercredi 21 octobre, septembre. il est 19h passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, la première info, ça sera la bataille de la ZAD. Et ils sont là. Et le thème de ce soir, c'est comment devient-on parent ? Et elles parleront de filiation, de reconnaissance et de contestation de parentalité. C'est bien ça ?
Oui.
Alors peut-être avez-vous reçu dans les deux derniers jours un texto, parce qu'ils ont quand même pas mal tourné, qui parle de la potentialité d'une expulsion de la ZAD pour la semaine prochaine. Alors voilà, en fait il y a un certain nombre d'indices qui pourraient laisser penser ça. Il y en a un certain nombre qui sont vrais, mais il n'y en a pas que des vrais non plus. Il y a plein d'histoires qui circulent. On va essayer de faire un petit tri, et quand je dis on va essayer, il faut bien que je dise très modestement que c'est grâce à un article de Indie Media Nantes écrit par les zadistes qu'on va s'y retrouver à peu près. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans les indices, alors on a d'abord des indices comme le préfet de Loire-Atlantique qui a publié le 14 septembre, c'est-à-dire la semaine dernière. Il n'y a pas si longtemps.
Les dates.
Oui, c'est ça, la semaine dernière. Un arrêté qui autorise la destruction du campagnol amphibie, une espèce protégée. Donc, et voilà, il fallait que le préfet signe ce machin pour lever le dernier obstacle administratif avant de commencer les travaux pour la construction de l'aéroport. Le sous-préfet avait indiqué il y a quelques mois que les premiers défrichements sur le site de Notre-Dame-des-Landes étaient impossibles à lancer tant que cet arrêté ne serait pas publié. Et il avait ajouté « mais il suffit juste de le publier avant l'intervention ». Et il avait dit que ça allait venir. Bon, ben voilà, c'est chose faite depuis la semaine dernière. Et après, on a le quotidien Presse Océan qui nous explique que plusieurs compagnies de gendarmes mobiles ont reçu l'ordre de geler les permissions pour fin septembre, début octobre, que des maîtres chiens avaient été retenus par le groupe Vinci pour des missions de sécurité à compter de mi-octobre. Alors ça nous fait pas pour tout de suite. Et voilà, des choses comme ça. Après, on sait que, et ça, ça semblait effectivement confirmer, que énormément de chambres d'hôtels ont été louées à Nantes, que en gros le parc hôtelier de Nantes est à peu près blindé à partir de dimanche soir. On sait encore que ce que nous dit encore l'article sur Indie Media Nantes, c'est que la répression du mouvement anti-aéroport est généralement précédée d'une opération médiatique. Et ces derniers jours, le président de la région, qui est donc complètement pro-aéroport, avait lancé des calomnies répétées à propos de rencontres organisées sur la ZAD pour se préparer à une éventuelle attaque policière, et qu'il avait communiqué dans tous les sens sur l'existence de ce qu'il appelait des véritables camps d'entraînement anti-flics qui se passeraient sur la ZAD. En parallèle, Valls et Sarkozy continuent à s'époumoner un peu sur leur volonté de rétablir l'autorité de l'État. Quand même, ce qui a circulé en plus comme info, c'est que les écoliers des quatre communes sur lesquelles est répartie la ZAD avaient que les écoles étaient fermées lundi mardi. Bon, ça c'est faux, les écoles sont bien ouvertes lundi mardi.
Dommage
pour les gamins. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un peu l'indice qui était un peu l'indice final, mais qui celui-là pour le coup est complètement inventé.
Et peut-être, dès qu'il y a un doute sur des infos, le mieux c'est d'aller voir le site zad.nadir.org, qui est l'actualité sur la zone.
Alors c'est complètement ça le mieux, parce que ce que disent les zadistes quand même, c'est qu'avec le nombre de rumeurs qui circulent dans tous les sens, d'informations vraies, d'informations fausses, etc., c'est flippant, c'est bordélique. Ça fait aussi des fausses alertes, ça use aussi le côté alerte pour quand il y aura une vraie alerte. Et donc eux, ils disent qu'eux, ils ont... Alors voilà, c'est ce qu'ils écrivent, c'est ça, ils écrivent « Nous avons depuis quelques années décidé d'un protocole pour confirmer si nous considérons ou non qu'une opération d'expulsion ou de démarrage des travaux est imminente, et pour estimer à quel moment il faut déclencher les divers plans de défense et de réaction. Nous recoupons les diverses infos en lien avec des personnes de copains et de la CIPA. Si nous estimons que la menace est imminente et réelle, nous le ferons savoir par un message commun sur les différentes listes, sur le site de la ZAD et sur le site de la CIPA. » Voilà, ils nous promettent des infos, des nouvelles infos ce soir sur les menaces d'expulsion, et ils disent enfin que ils ont besoin de pognon en ce moment pour préparer globalement la propagande, et aussi pour les téléphones, pour l'équipe de soutien juridique, pour le matos, etc., etc. Donc si vous avez du pognon, n'hésitez pas à en envoyer. Pareil, rendez-vous sur Indie Media Nantes ou sur zad.nadir.org pour savoir comment l'envoyer. En tout cas, voilà, si jamais l'expulsion est vraiment pour très bientôt, ça vaut le coup de dégager vos agendas pour pouvoir, dans le meilleur des cas, monter à la ZAD rapidement, et dans le pire des cas, trouver quand même quelques petites actions décentralisées à mener là où vous êtes.
Alors, cette info remonte à quelques semaines, mais l'association Wellfarm, qui défend les animaux de ferme, a lancé une campagne de pub pour dénoncer la castration à vif des porcelets dans les élevages. Alors, il y a 85% des porcs d'élevage qui sont castrés à vif à leur naissance. Le 15% restant sont castrés sous anesthésie. Précision tout de même, hein, 100% de ces porcs d'élevage seront abattus pour finir dans nos assiettes quand même. Bref, vous l'aurez compris, cette campagne de pub n'est pas d'une radicalité extrême, puisqu'elle préconise juste de réduire la souffrance animale, et en l'occurrence des porcelets. Mais pas du tout l'arrêt complet de l'abattage animal. Pardon. Alors malgré ça, la filière porcine de la Sarthe et de plusieurs villes de Bretagne, hein, en tout cas en Bretagne c'est un endroit où il y a énormément d'élevage porcin, ont fait pression notamment sur la société de transport en commun qui affichait ses affiches à ses arrêts de bus en les menaçant de bloquer les routes s'ils ne retiraient pas les affiches. Et hop, et ben, ni une ni deux, les affiches ont été retirées par arrêté préfectoral. La préfecture se justifie d'un, je cite, risque d'atteinte de trouble à l'ordre public. Alors, on a bien cherché, hein, quand même, vraiment. On a quand même vraiment trouvé aucun argument recevable pour s'opposer vraiment à l'anesthésie avant la castration.
À vous, le préfet a interdit le rassemblement BDS. Contre le spectacle de Roy Assaf. Donc c'était ce lundi. Plusieurs dizaines de personnes, notamment des membres du collectif 69 de soutien au peuple palestinien, étaient venues protester devant les 5C à Vaux-en-Velin, donc c'est le centre culturel communal Charlie Chaplin, contre le spectacle de Roy Assaf dans le cadre du boycott à Israël. Mais donc le préfet Delpech s'est empressé de prendre un arrêt préfectoral d'interdiction. Et alors, ce spectacle est dans le cadre de la Biennale de la Danse, et il présente donc dans trois communes, Vaux, Saint-Genis-Laval et Corbas, un spectacle qui s'appelle « Six jours après » et l'autre qui s'appelle « La colline », faisant référence à la guerre des six jours, et dont une partie de la musique est composée d'un chant militaire israélien. Et ce spectacle est soutenu par le ministère de la Culture en Israël. Et voilà, et du coup, par rapport aux personnes de la campagne BDS, et ben c'est ça les emmerde vraiment que le fait que la Biennale soutienne cet artiste, puisque ils disent ainsi, pendant que des artistes palestiniens sont emprisonnés comme Abou Saka, clown palestinien, ou la poétesse Darin Tatour, pendant que la colonisation et les crimes continuent, le gouvernement israélien se sert de l'art pour promouvoir l'image d'Israël, et la Biennale de la Danse se prête à cette propagande. Alors vous pouvez lire l'article « On ne danse pas avec l'apartheid » paru dans rebellion.info pour avoir plus de détails.
Alors on va faire un tour de l'autre côté de l'Atlantique, et on va aller aux États-Unis où un flic s'est fait licencier pour ne pas avoir tiré sur un noir américain. Oui, oui, vous avez bien entendu, je n'ai pas rajouté une négation en trop. Le flic se trouve face à un gars portant une arme à feu, mais qui ne la pointe pas directement sur lui. Ce gars demande au flic de l'abattre. Donc là, le policier en question pense qu'il s'agit d'un cas de suicide by cops, hein, qui en français donne suicide par la police. Vous l'aurez compris, c'est assez explicite, hein, un type, c'est très américain, ça n'existe pas trop en France. pas pourquoi. Un type se pointe avec une arme, voire une arme factice et tout, et l'agite un peu devant des flics. En général, ça marche assez facilement. Il se fait abattre. Là, manque de peau, bien vu pour lui, il tombe sur un flic qui est pas trop con, qui décide de pas tirer sur la personne et plutôt d'engager un dialogue avec lui pour essayer de le raisonner. Bon, ça c'était sans...
La police payée par les impôts des gens, c'est une sorte de service public.
C'est ça. Mais bon, il y en a quand même pas beaucoup, c'était sans compter l'arrivée de ses collègues qui, eux, n'hésitent pas une seconde à tirer sur le type qui le tue sur place. Après vérification, l'arme de la personne n'était pas chargée. Donc, après, le premier flic avait quand même plutôt raison. Une enquête interne justifiera les tirs, bien sûr, et les supérieurs hiérarchiques licencieront leur collègue qui n'a pas tiré pour, je cite, « incapacité à éliminer une menace et pour avoir mis en danger la vie de deux agents ». Voilà. Donc, tout ça dans un contexte aux États-Unis où il y a plein de Noirs américains qui se font descendre pour rien. Bah voilà, bah le message est assez clair hein, pour les flics. Il est plus risqué d'un point de vue disciplinaire, voire judiciaire, de ne pas tirer sur un Noir américain plutôt que de le cribler de balles alors qu'il ne représente aucune menace.
On va parler maintenant de répression en Kabylie, puisque le pouvoir algérien a saisi sa machine judiciaire et policière pour condamner Sylmane Bouaf le 6 septembre 2016 à 3 années de prison parce qu'il est chrétien, parce qu'il est kabyle. Des rassemblements sont organisés à différents endroits pour dénoncer le colonialisme de l'État algérien. Et depuis la marche historique du 20 avril 2016, les militants et cadres du MAK subissent une répression sans précédent de la part de l'Algérie et de ses services de sécurité, des intimidations, interpellations et convocations quasi systématiques pour les dissuader de poursuivre leur combat en faveur de la Kabylie. Alors bonsoir Dalil, tu es parmi nous.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir collègues.
Tu vas pouvoir revenir sur un peu, la petite présentation que j'ai faite pour donner beaucoup plus de détails.
Oui, alors bon, déjà pour aller dans ton sens, le MAC, c'est le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. C'est un mouvement qui était au départ, qui s'appelait le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, donc qui s'est avéré qu'on a jugé d'aller beaucoup plus loin, donc demander un référendum sur l'autodétermination de la Kabylie. Donc, c'est en train de s'organiser, il y a un dossier qui va être posé là, prochainement au mois de janvier à l'ONU. Parce qu'on estime qu'on est un peuple, on a une langue, on a un territoire, et historiquement c'est la France qui a rattaché la Kabylie à l'Algérie, 30 ans après son arrivée en France. Donc c'était en 1839 où général Schneider avait déjà proclamé l'Algérie, inventé l'Algérie, on va dire, le terme Algérie. Et en 1800, dans les années 1860, c'était la défaite de la Kabylie qui a été rattachée à l'Algérie, voilà, pour l'histoire. En concernant le détenu Sylmane Bouaf, c'est pas le premier. L'année dernière, on a accueilli ici j'en avais parlé d'ailleurs, donc un gars qui s'appelle Kamaldine Fall, le docteur. Il était avec nous ici dans l'émission, il est en prison depuis
une
année.
Peut-être qu'il faut préciser que tu as aussi une émission sur Canu.
Oui, le samedi soir, à 21h, on en a deux maintenant, on en a une dimanche soir qu'on n'a pas encore démarré. Non, le samedi soir à 22h et puis celle du dimanche soir. Donc voilà, c'est la politique, les débats sur tout ce qui concerne les Berbères, la Kabylie. Donc voilà, pour vous dire simplement que c'est la continuité un petit peu de ce qui se passe en Algérie. On a arrêté le docteur Frar parce qu'il a dénoncé le ce qui se passait dans le sud algérien, notamment la répression contre les militants de Mozabite, c'est une ethnie berbère dans le sud algérien, tout comme les Kabyles, les Chaouis et les autres au Maroc. Et donc ils ont été agressés, on leur a brûlé leur commerce, on a incendié leur commerce, on a fait plein de choses. Et on voit l'implication des forces de l'ordre dedans avec des populations qui ont été amenées d'ailleurs, des populations arabes qui ont été amenées pour arabiser cette région. On a un peu le même problème maintenant en Kabylie, où on importe des gens pour foutre un peu la zizanie. Donc il est encore en prison, le docteur Fall, à l'heure actuelle, pour ses idées. Et donc là, c'est un autre cas encore, un cas un peu grave quand même. Donc Slimane Bouhaf, c'est un militant, déjà il est connu pour être un militant sympathisant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il est un militant depuis de longue date, il a milité dans le mouvement citoyen dans les années 2001 suite aux émeutes en Kabylie. Il est de confession chrétienne, il a épousé la religion chrétienne, si je ne me trompe pas, c'est à la fin des années 90, en fait, suite à l'amnistie de Bouteflika, qui a libéré des terroristes, qui a amnistié des égorgeurs d'enfants. Donc il était policier, il s'est retiré de la police, et il a épousé la religion chrétienne. Donc, en fait, le départ de cette affaire, c'est ce qu'on avait reçu de sa fille sur les ondes de Radio Canu. Donc, elle nous l'a raconté. Je vais essayer de vous faire bref et rapide. Donc, en fait, il a reçu des menaces. Il y avait un imam dans son village qui a sorti une fatwa contre lui, donc avec des menaces, un appel à la haine. Donc, il a reçu des menaces. Il allait porter plainte à la gendarmerie. Je crois que c'était le 30 juillet ou le 29. Il a été arrêté le 31 juillet. Il allait porter plainte et le lendemain, il a été arrêté, lui. Donc on l'a jugé en moins de 24 heures. On lui a mis 5 ans ferme, sans avocat, sans rien du tout.
Mais du coup, il a été jugé pour quel délit ?
Atteinte à l'islam et au prophète. Voilà, tout simplement, il y a un article dans la Constitution algérienne. Il faut savoir que c'est une religion d'État, il y a un ministère de la religion. Et donc ils ont profité de cet article, je ne sais plus si c'est le 31 ou le 11, je ne me rappelle plus, disant que toute atteinte à l'islam, tout propos contre l'islam ou le prophète, eh ben, était passible de 3 à 5 ans de prison, plus 100 000 dinars d'amende, l'équivalent de 1 000 euros on va dire. Et donc il a été jugé en moins de 24 heures dans l'illégalité complète, sans avocat, au détriment de toutes les lois, tous les droits que peut avoir un détenu. Donc on l'a, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du monde entier, un jugement comme ça, TGV. On l'a mis en prison, il y a eu un appel, il a pris 3 ans quand même ferme. Donc je pense qu'il paye un petit peu le fait qu'il soit militant, qu'il soit chrétien. Et aussi, bon voilà, ils cherchent un petit peu des noises en ce moment aux militants, et comme il est un militant connu dans la région avéré, il a été... Ce qui est inquiétant un petit peu, c'est le silence des démocrates en Algérie, des partis d'opposition qui pour l'instant n'ont pas réagi. Il y a des militants qui réagissent, il y a des petits rassemblements, mais c'est vraiment très peu. Et aujourd'hui, on a conditionné le peuple algérien, on l'a endormi avec la religion et avec le football. Il n'y a plus de réaction en Algérie. La religion a vraiment assommé les gens. À l'école, c'est une catastrophe. C'est une machine à fabriquer des terroristes. Et aujourd'hui, la région de Kabylie, qui est pourtant connue pour être une région laïque, ouverte, et très tolérante aujourd'hui, même la Kabylie, qui est une région, on dirait même la France est touchée, c'est un phénomène international. Mais même la Kabylie aujourd'hui est touchée par ce phénomène-là. On n'a plus une mobilisation comme avant. Lorsqu'on touchait un citoyen de Kabylie, peu importe la confession, il y avait une réaction de l'élite, des militants, de toutes les couches sociales, religieuses ou autres. Aujourd'hui, il n'y a pas de réaction, c'est dommage.
Est-ce que tu peux nous parler un peu, pour revenir en arrière, de la marche là, qui avait été organisée le 20 avril ?
Oui, des marches, il y en a souvent. Le 20 avril, c'est le printemps berbère. Donc, d'ailleurs, j'y étais parti spécialement pour la marche. C'est une marche qui a drainé, d'après les chiffres, au moins 200 000 personnes, avec des slogans pour l'autodétermination, voire l'indépendance. Parce que l'autodétermination, en fait, c'est un vote qui... C'est une élection, en fait, un référendum qu'on demande pour que le peuple statue et vote en son âme et conscience, librement. Est-ce que vous voulez rester dans cette Algérie qui est en train de vous tuer, qui est en train de vous arabiser? Ou est-ce que vous voulez une autonomie? Ou est-ce que vous voulez une indépendance? Aujourd'hui, on va dire qu'il y a ces trois tendances en Kabylie. y en a qui veulent rester dans cette Algérie arabo-musulmane, il y en a d'autres qui veulent une Kabylie autonome, démocrate et laïque, et puis il y en a les autres qui veulent carrément une indépendance, revenir à la Kabylie d'antan, revenir à la Kabylie indépendante qui était maître et souveraine. Voilà, concernant l'affaire Bouhafs, maintenant il y aura certainement ou un appel ou alors il restera en prison et peut-être il bénéficiera d'une grâce, on l'espère. En tout cas, il faut une mobilisation pour qu'il y ait une grâce. L'Algérie a signé des accords, des conventions internationales sur les droits de l'homme, sur la liberté de conscience et de culte, qu'elle ne respecte pas. Pourtant, elle garantit la liberté de culte dans la Constitution. Mais cette fameuse loi, on va dire qu'il détourne... cela et les gens, dès qu'on leur parle d'atteinte à l'islam ou tout ça, et ben, automatiquement ils suivent comme des moutons. Aujourd'hui, Bouhafs, il est en prison, il a la maladie de la goutte, il ne vivra pas 2 mois en prison. Et on peut s'inquiéter sur son cas. Et quand on voit aussi l'église, par exemple, protestante algérienne qui a été contactée par sa famille, elle n'a pas osé prendre position. Puisque pour eux, il aurait tenu des propos sur Facebook. Bon, certes, il a tenu quelques propos contre la religion, contre le prophète, mais est-ce que ça vaut 3 ans de prison ferme des propos? Franchement, non. C'est rien à côté de tout ce qui est en train de faire le pouvoir. Il viole les droits de l'homme, il a tué, il est en train de ruiner un pays. Et aujourd'hui, Bouhafs, il paye... on va dire qu'il paye son engagement et puis il paye pour les autres. Et on craint pour sa ville. Sincèrement, on craint pour sa vie. Donc là, il y a des actions qui vont être menées pour sa libération, en espérant. Et puis pour les autres également, qu'il y a un docteur Frar. En tout cas, il faut être inquiet parce que même les organisations internationales, les pays comme la France, tout ça, qui sont silencieuses sur ces dossiers-là parce qu'il y a des intérêts avec l'État algérien. Et puis, malheureusement, c'est toujours les militants qui payent.
Alors, merci Dalil. Malheureusement, on va déjà s'arrêter parce qu'il faut qu'on continue. Oui. Tu nous redis les heures auxquelles on peut écouter ton émission où tu as déjà parlé de tout ça, puis tu vas en reparler.
Oui, on en reparle samedi à 22h sur Radio Canu, la plus rebelle.
Ok, et l'émission du dimanche qui est censée
dimanche, bientôt, mais pas encore. En fait, justement, c'est ce problème de militants, puisqu'on avait prévu de faire intervenir des gens de Kabylie, des militants qui iraient faire des reportages sur la vie dans les villages ou sur les problèmes qu'ils rencontrent. Malheureusement, aujourd'hui, nos militants, ils sont persécutés. Ils sont arrêtés, on leur a spolié leur commerce, ils vivent sans rien du tout. Ils vivent au jour le jour et on comptait sur eux. Malheureusement, on ne peut pas leur demander plus et on va faire autrement pour le moment.
Du coup, pour l'instant, samedi 22h.
Oui, le dimanche, ça va commencer bientôt, mais on va dire avec des gens qui ne sont pas... pour l'instant, qui sont encore en liberté.
Voilà. D'accord. Eh ben, merci Dalil. Et on passe à l'agenda.
Merci à vous.
Merci. C'est les aléas.
Alors, les quelques infos des prochains jours. Alors, demain à 18h30 à la Bourse du Travail, il y a une assemblée de lutte. Puisque depuis mai dernier, l'assemblée de lutte est un outil destiné à organiser la résistance contre un appareil d'État répressif et précarisant, contre la bourgeoisie organisée qui ne cesse de s'attaquer à nos droits, à nos libertés, à travers les projets comme la loi El Khomri, des mesures comme l'état d'urgence ou des procédés politiques abjects tels que la stigmatisation des personnes racisées, notamment d'origine musulmane ou supposées l'être. Après 4 mois de mobilisation, de grève et de manifestation, malgré un climat de contestation exceptionnel, la loi travail a été adoptée dans le déni de démocratie totale par l'utilisation du 49-3 à répétition et la répression spectaculaire du mouvement social. Donc, on constate aussi le maintien de politiques capitalistes destructrices, état d'urgence permanent, harcèlement des populations musulmanes ou apparentées, intervention militaire à l'étranger créant les conditions du développement des attentats. Il est nécessaire d'agir, de parler stratégie de lutte, de s'organiser, de converger. Bref, je vous ai lu un petit bout de cet appel pour l'Assemblée de lutte ce jeudi 22 septembre à 18h30 à la Bourse du Travail, place Guichard, Lyon 3. Sinon, il y a un rassemblement samedi 24 à 10h30 à Vaux-en-Velin, Madu-Taureau. Nos quartiers populaires sont des zones à défendre. Nos milieux de vie sont des zones à défendre. En fait, c'est que il y a le collectif des privés d'emploi et précaires qui va être expulsé de son local. Et voilà. Et notamment, cet assaut, ce collectif, ne pourront plus faire leur activité militante. Et ça menace également une vingtaine de familles des quartiers Mont-Gerbier et Mont-Cindre. Du coup, ça vaut vraiment le coup d'aller à ce rassemblement le 24 septembre à 10h30. Sinon, à Cluny, plus tranquille, dimanche, il y a le Salon du Livre Libertaire.
En Savoie, ça, Cluny.
Non, dans le...
Saône-et-Loire,
vers Mâcon. Ouais, je sais pas trop loin de Mâcon.
Il y avait le 7, là. Tu avais quelque chose.
Donc, c'est le salon du livre autour du thème de violence. C'est large. Violence faite aux femmes, aux enfants, aux animaux, au territoire, à la nature, à la vie quotidienne, etc. Sinon, ce jeudi, donc demain, pareil, la mécanique des flux, projection du film, du documentaire de Nathalie Loubert sur les routes migratoires et la répression des migrantes aux frontières européennes. Et le 1er octobre, ça sera le fameux pot de rentrée de la librairie La Griffe à 19h.
Et pour ajouter, pour finir cet agenda, il y a la revue Meraba et Valno qui vient de sortir, c'est le numéro 7 après une petite pause estivale. Gros numéro de 28 pages, dedans il y a l'armée turque qui envahit le Rojava, des entretiens, ça revient sur le putsch militaire et le putsch civil qui s'est passé en Turquie, enfin bref, il y a plein de trucs. Vous pouvez le trouver sur rebellion.info, sur le site Kedistan, kedistan.net, qui est un site qui parle des luttes kurdes et de tout un tas d'autres trucs, hyper bien. Et voilà, cette brochure, vous pouvez l'imprimer, la diffuser dans plein d'endroits, profiter de votre photocopieuse dans vos bureaux, dans vos syndicats, pour la diffuser de partout, c'est hyper bien.
Juste un petit mot, parce que j'avais oublié de préciser ça. Le pouvoir aussi est passé, pour revenir à l'affaire Bouhab, s'il est passé à d'autres méthodes. On a un artiste aussi qui a été assassiné il y a 15 jours. D'ailleurs, que je devais inviter ici, il a été retrouvé pendu. Donc je tenais à le préciser. Et puis je vous invite, si vous voulez comprendre un petit peu mieux, imaginer la situation, allez voir Ali Dilem, qui fait des caricatures super. D'ailleurs, par rapport à cette affaire de Slimane Bouhafs, il a fait une caricature où on voit un général avec Bouteflika. Et le général, il lui dit, bon, en gros, il a marqué 3 ans ferme pour Bouhafs. Et le général, il fait 1 an pour le Père, 1 an pour le Fils, 1 an pour le Saint-Esprit. Et Bouteflika, il fait Amen. Voilà. Vous pouvez aller la voir, elle est sur Internet. Merci.
Le tribunal, veuillez vous lever.
Tribunal, audience, signification, putatif,
amiable, juridiction, convocation,
assignation,
la procureur,
amiable,
constitution,
signification,
putatif,
incompétence,
signification,
convocation,
relax,
abusif,
procureur,
flagrant,
constitution,
amphithéotique,
procureur,
assignation,
requête,
constitution,
authentique,
incompétence,
exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonjour, à nouveau.
Bonjour.
Alors, c'est encore une nouvelle édition du fil d'Ariane pour la rentrée. On va vous parler effectivement de comment devient-on parent. Sachant que c'est une émission qu'on va faire un petit peu en deux parties. Enfin, c'est une émission sur la filiation en deux parties. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment devient-on parent. C'est-à-dire qu'on va parler surtout des questions de reconnaissance et d'action en recherche de paternité. Et on fera une autre émission plus tard sur tout ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation, la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, et l'adoption. Donc aujourd'hui, on va vous parler des femmes façon dont on établit le lien de filiation avec un enfant qui est déjà là, avec à la fois le côté reconnaissant, ça veut dire quand on reconnaît qu'on est le parent d'un enfant, et le cas où finalement un des parents, et c'est souvent le père, qui ne reconnaît pas qu'il est le père d'un enfant, et qui à ce moment-là, il faut établir judiciairement la filiation par ce qu'on appelle une action en recherche de paternité. Juste en introduction, pour vous préciser que ce domaine-là de la filiation, c'est un domaine qui est un peu compliqué même pour nous les juristes, donc on va essayer d'aller un peu au plus pratique et on va essayer d'évoquer un peu les situations concrètes et courantes qu'on peut trouver et qui peuvent concerner quand même pas mal de gens, notamment toute la question de la reconnaissance, parce que ça concerne un peu tous les gens qui sont amenés à devenir parents. Donc voilà, et d'abord on va parler donc de la reconnaissance.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors, s'agissant de la reconnaissance, déjà une petite précision, parce que c'est une question qu'on s'est posée au moment où on préparait l'émission. Quand on établit la filiation d'un enfant par la reconnaissance, donc l'inscription sur l'état civil des parents, ça peut être qu'un père et une mère. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, par exemple, avoir une mère qui a accouché et une seconde femme qui viendrait reconnaître l'enfant. Aujourd'hui, c'est pas... C'est pas explicitement interdit par le code civil, mais en tout cas, c'est pas reconnu par la justice, donc ça, ce serait pas reçu par un officier d'état civil. Donc, juste pour préciser, donc quand on parle de père et mère, c'est pas une volonté pour nous d'exclure d'autres formes de parentalité, mais c'est le texte tel qu'il est écrit aujourd'hui. Donc, parfois, la reconnaissance n'est pas nécessaire, c'est-à-dire que il suffit que la mention du parent suffit à elle-même à établir la filiation avec l'enfant. C'est le cas notamment quand à l'égard de la mère, c'est-à-dire que le fait qu'elle se désigne comme la personne qui a accouché de l'enfant suffit à ce que le lien de filiation soit reconnu. Donc, une mère n'a plus besoin de reconnaître son enfant quand elle a accouché, qu'elle est indiquée sur l'acte d'état civil. Et à l'égard du père, si l'homme qui est indiqué sur l'acte d'état civil est le mari de la mère, il y a une présomption de paternité, donc il n'a pas besoin de reconnaître l'enfant non plus. Donc c'est dans ces deux cas-là, il n'y a pas besoin de reconnaître l'enfant à partir du moment où le nom du parent est indiqué sur l'acte d'état civil. Il n'y a pas besoin. Donc le cas le plus fréquent, c'est effectivement pour la mère qui a accouché et le mari de la mère si c'est le père de l'enfant. S'il n'apparaît pas sur l'acte de naissance, par contre, il n'y a pas de présomption de paternité. C'est-à-dire que si je suis mariée, que j'accouche et que j'indique pas qui est le père de l'enfant ou que j'indique un autre homme, à ce moment-là, moi, même si je suis mariée, c'est pas le mari qui est considéré comme le père.
Et ça marche que pour le mariage ou pour le PACS, c'est pareil?
Non, ça marche que pour le mariage. C'est vraiment la question. C'est vraiment, il y a pas de, le PACS donne pas de droit par rapport à ça. Donc dans les autres cas, concubinage, PACS, il faut reconnaître l'enfant. Donc là, du coup, on va parler du père, puisque par définition, alors à moins qu'elle ne soit pas indiquée sur l'acte de naissance, la mère n'aura pas eu besoin de faire la reconnaissance. Donc on peut faire reconnaître l'enfant à trois moments.
Alors, premier moment, avant la naissance?
Oui, c'est tout à fait possible. Donc on peut reconnaître l'enfant avant la naissance. Il suffit pour ça de se présenter dans n'importe quelle mairie. En général, c'est la mairie du domicile, mais on peut le faire dans n'importe quelle mairie avec une pièce d'identité et indiquer qu'à l'avance, on reconnaît l'enfant que porte madame ou monsieur... Enfin, madame, d'ailleurs, parce que...
Pas encore.
Ça viendra. Mais sachant que c'est... Enfin, la reconnaissance, ça permet... Enfin, une fois que c'est fait, ça veut dire qu'au moment de la déclaration de naissance, l'acte sera déjà fait, il n'y aura pas besoin d'y retourner. Simplement, il y a une mention sur l'acte de reconnaissance qui indique que... Alors, je ne sais plus quelle est la formule, parce que je vous avouerai que c'est un peu... Même pour moi, j'ai trouvé ça un peu tordu. Qu'en fait, c'est une filiation qui... La reconnaissance est divisible à l'égard de la personne. Autrement dit, s'il y a deux hommes qui reconnaissent le même enfant, c'est vrai avant et c'est vrai après, du coup, ils sont obligés d'enregistrer la reconnaissance et après, ça m'ira devant le juge. Mais donc, il y a une formule en bas un peu alambiquée qui dit simplement que, ok, tu reconnais l'enfant, mais ça ne veut pas dire que ce sera établi pour la suite.
Deuxième moment, donc au moment de la naissance de l'enfant?
Oui, au moment de la naissance, puisqu'il y a une démarche à faire, alors qui, en général, dans les grosses maternités, est faite par les sages-femmes ou par les médecins, ce qui est la déclaration de naissance. Et en fait, on peut aussi, si la reconnaissance n'a pas été faite avant la naissance, on peut aussi faire à un moment de la déclaration, faire la reconnaissance en même temps. Donc à ce moment-là, simplement, il faut le faire dans les 3 jours qui suivent la naissance. C'est le père de l'enfant qui va reconnaître à la mairie, qui va déclarer la naissance et par la même occasion faire la reconnaissance. Dans les deux cas, quand la reconnaissance est faite avant ou au moment de la naissance, sur l'acte d'état civil, c'est directement mentionné que l'enfant est, l'enfant de monsieur un tel et madame un tel. Ce qui n'est pas le cas dans la troisième hypothèse.
La troisième hypothèse, justement, après la déclaration de naissance, est-ce que le père peut encore reconnaître l'enfant ?
Oui, il peut le faire. À tout moment, simplement, ça, il y aura des conséquences différentes, puisque ce sera du coup mentionné en marge de l'acte d'état civil, donc on saura que la reconnaissance est postérieure, et ça a des conséquences en matière notamment de nom de famille, sur le choix du nom de famille et sur l'autorité parentale après. Pardon, j'ai rien dit. Mais oui, donc oui, c'est tout à fait possible.
Et alors, il y a un cas qui est particulier aussi, c'est lors de l'accouchement sous X. Donc, on autorise une femme, une mère, qui elle peut demander que son identité soit préservée. Dans ce cas-là, elle a 2 mois pour se rétracter. Et c'est ce même délai au cours duquel le père peut également reconnaître un enfant. En fait, on considère que c'est un délai de 2 mois parce qu'au bout de 2 mois, après 2 mois, l'enfant devient pupille de l'État. Il est recueilli par l'aide sociale à l'enfance et on considère qu'il est adoptable. À partir du moment que l'enfant devient adoptable, ni le père ni la mère ne peut faire de reconnaissance a posteriori. Il n'y a plus, le délai de rétractation est dépassé. Il y a eu une exception, il y a eu un cas dans la justice, dont d'ailleurs on a un petit peu parlé, même dans les médias je crois, c'était en 2006, où un père voulait reconnaître cet enfant, en disant « mais voilà, enfin la mère a voulu coucher sous X, mais moi je veux reconnaître cet enfant ». Et on a reconnu son droit de reconnaître son enfant au-delà du délai de 2 mois, mais parce qu'il avait fait une reconnaissance prénatale. Et parce qu'il avait fait une reconnaissance prénatale, on avait considéré que son droit... Enfin, je passe un peu les détails, mais voilà. On avait considéré qu'il pouvait reconnaître son enfant au-delà du délai de 2 mois. Mais sinon, on est vraiment... Il faut penser au délai de 2 mois.
Du coup, on peut recommander la reconnaissance prénatale quand même, quand on sait qu'on va être le père d'un enfant. Vaut mieux faire cette démarche, même si elle va devoir être prolongée par un autre acte au moment de la naissance. C'est quelque chose qui est quand même qui est important.
Bah, disons que si un père veut reconnaître son enfant... dont la mère décide de pas donner, enfin dont la mère décide de pas donner son identité, dans tous les cas, il a intérêt à être très réactif et de le reconnaître prénatalement et même au moment de la naissance, parce que le délai de 2 mois c'est quand même très court.
Alors, on a vu comment on faisait la reconnaissance, notamment après la naissance de l'enfant, mais est-ce qu'il y a un délai pour le faire justement après la naissance ?
Non, il n'y a pas de délai. Enfin, le principe c'est qu'il n'y a pas de délai pour faire une reconnaissance. Après, c'est toujours mieux, je pense, de reconnaître son enfant dans les 3 jours à compter de la naissance. Mais s'il n'y a pas de délai, il y a quand même des conséquences. Des conséquences par rapport au choix du nom de famille de l'enfant et des conséquences également par rapport à l'autorité parentale. Alors, concernant le nom de famille, il y a plusieurs cas de figure et le code civil est... détail assez bien, mais je vais pas lire l'article. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si les parents établissent ensemble la filiation, ils peuvent choisir le nom de leur enfant. Mais il faut qu'ils établissent le lien de filiation ensemble et de façon simultanée. S'il n'y a pas de déclaration conjointe, alors là, j'ai trouvé ça presque amusant, c'est le premier qui va établir le lien de filiation. Donc, le premier peut donner le nom de famille, le deuxième ne peut plus. Si les parents décident de tous les deux d'établir le lien de filiation de façon simultanée mais pas conjointe, c'est l'enfant prend le nom du père. Alors je pense que c'est un cas de figure qui est assez rare, parce que en fait simultanée mais pas conjointe, ça voudrait dire que le même jour ils vont tous les deux déclarer reconnaître l'enfant. Et donc dans ces cas-là, c'est le nom du père. Et en cas de désaccord, l'enfant peut porter les deux noms. Enfin bon, tout ça c'est assez technique, mais voilà. En tout cas, il y a des conséquences sur le choix du nom de famille. Et par rapport à l'autorité parentale, il faut savoir que le principe, c'est que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Ça, on l'avait vu dans les émissions d'ailleurs précédentes. Le père et la mère exercent autorité parentale sur l'enfant. Mais si la filiation est établie plus d'un an après la naissance de l'enfant, dans ces cas-là, c'est le parent qui a déclaré l'enfant, enfin qui a reconnu l'enfant, qui a l'autorité parentale exclusive. Donc ça a quand même des conséquences pour le parent qui ne reconnaît pas son enfant. Le seul moyen, dans ces cas-là, pour obtenir une autorité parentale, pour donc le parent qui l'a pas, c'est une déclaration conjointe auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance où il faut obtenir une décision du juge aux affaires familiales. Mais donc voilà, ça c'est une conséquence qui est quand même assez importante.
Ouais, parce que soit les parents sont d'accord pour faire cette déclaration, mais ils sont pas d'accord, ça veut dire que l'autre parent, généralement c'est quand même le père, il doit faire une procédure devant le juge d'affaires familiales, et on retombe un peu sur les procédures qu'on avait évoquées quand on avait fait l'émission sur la séparation des parents.
Exactement.
Donc c'est une procédure qui est quand même un peu longue et un peu lourde, ça veut dire que c'est potentiellement un parent qui pendant des mois va pas avoir l'exercice de l'autorité parentale, donc c'est quand même pas anodin.
J'avais une petite question, pardon, mais concernant le nom. Et moi, il me semble que si ça vient dans cette histoire de un an avant les un an de l'enfant, c'est possible pour la deuxième personne, si elle le reconnaît dans cette année-là, d'accoler le deuxième nom de famille à l'enfant.
Oui.
Alors,
on en parlera plus tard, c'est ça?
Bah non, c'était la réponse. Non. Vas-y, non, c'est pas. Parce que j'ai le texte, je veux juste le temps de relire pour vérifier, mais.
Il est un peu compliqué. C'est l'article, si vous avez envie d'aller lire, c'est l'article 311-21 du Code civil. C'est une joie à lire. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, ces histoires-là. Mais il y a tellement de cas de figure qui se présentent.
Mais en tout cas, le Code civil prévoit, enfin, décline les différentes hypothèses. Et pour le coup,
mais il n'y a pas l'histoire du délai d'un an pour le nom.
Ouais.
En fait, l'histoire du délai d'un an, c'est vraiment sur l'exercice de l'autorité parentale. C'est pas sur le nom de famille. Sachant que nous, quand on a préparé l'émission, on s'est reposé la question parce que on avait effectivement en tête cette histoire du délai d'un an, mais c'est uniquement pour ce problème d'exercice de l'autorité parentale. Sur le nom de famille, c'est encore autre chose. Du coup,
c'est bon. Je crois que j'ai réussi à trouver le texte.
L'alinéa en plus, parce que le texte est long.
En fait, quand justement il y a un deuxième lien de filiation, donc il y a une reconnaissance a posteriori, tant que l'enfant est mineur, les parents peuvent, par déclaration conjointe, donc s'ils sont d'accord, substituer le nom de famille du parent, changer le nom qui avait été initialement établi, soit accoler les deux noms, c'est-à-dire remplacer le nom du père, enfin le nom de la mère par celui du père, soit accoler les deux noms dans la limite d'un nom de famille par chacun d'eux, donc les règles habituelles. Et simplement, c'est un changement de nom, donc c'est mentionné en marge de l'acte de naissance, donc on voit qu'il a été modifié en cours de route. Et si l'enfant a plus de 13 ans, il faut qu'il y ait l'accord qui soit recueilli. Mais pour le coup, c'est pas un délai d'un an. C'est possible tant que l'enfant est mineur.
Mais par contre, c'est bien une déclaration conjointe. Donc c'est toujours, il faut que les deux parents soient d'accord. Si les deux parents sont pas d'accord, là par contre, tu peux plus rien faire.
Eh ben, d'expérience, je peux vous dire qu'à l'état civil, c'est pour une reconnaissance d'un deuxième enfant, bref, la personne qui est allée toute seule, l'officier d'état civil lui demande si elle veut accoler son nom de famille ou pas.
Alors,
je me demande même si elle n'a pas demandé si c'était possible de remplacer les noms ou quoi.
Juste, je ne veux pas critiquer les services d'état civil, mais quand même, moi, ça m'est arrivé dans des dossiers de voir des choses bizarres qui ont été notées par des officiers d'état civil. Juste un exemple comme ça, moi, j'ai une dame qui s'est mariée à Las Vegas. Le mariage n'a jamais été enregistré aux États-Unis, il n'a pas été transcrit en France ni rien. Quand elle a accouché, le père a dit je suis le mari de madame, donc je suis le père. L'officier d'état civil a noté madame mariée, etc. Du coup, le lien de filiation a été établi comme ça, il n'y a pas eu de reconnaissance, alors qu'en fait, le mariage n'était pas valable, il n'a pas été enregistré là-bas, il n'a pas été transcrit ici. En fait, elle n'était pas vraiment mariée. Et on s'est retrouvé à faire une procédure de divorce. C'était un truc complètement un peu fou, parce que du coup, on ne pouvait pas non plus dire que le mariage était vraiment valable, mais du coup, l'acte de naissance du gamin disait que les parents étaient mariés. Enfin bref, c'était. Et franchement, à mon sens, l'officier d'état civil aurait jamais dû écrire ça à ce moment-là. Donc, j'ai mes quelques réserves sur parfois ce qui peut être fait au niveau de l'état civil, alors que c'est quand même grave et qu'ils ont des instructions, etc. Si on regarde, c'est l'Institut, l'instruction générale sur registre d'état civil, c'est un texte pas possible de plusieurs tomes. Il y a quand même des choses hyper précises, mais parfois, il y a des choses un peu surprenantes qu'on peut voir.
Peut-être que dans ce cas-là aussi, il y a peut-être que si c'est un deuxième enfant, si le premier enfant avait les deux noms, c'est possible
Il n'y en avait qu'un.
Là aussi, c'est fou parce qu'en principe, les enfants doivent porter le même nom.
C'est une obligation.
Par contre, ça avait comme conséquence de modifier le nom du premier enfant.
Il n'y a pas de souci, on n'a qu'à faire. Non, mais voilà, après, c'est aussi une possibilité. Nous, le texte, il passe ça. Mais après,
Du coup, on a vu comment on fait pour reconnaître un enfant. On a vu qu'il suffit d'aller à la mairie avec une carte d'identité et dire je suis le père de cet enfant. Désolé, je fais un peu des raccourcis à chaque fois. Je dis le père parce que c'est quand même la situation qui se présente le plus. Mais alors du coup, est-ce qu'en fait n'importe quel père peut reconnaître n'importe quel enfant?
Bah, grosso modo, oui.
Alors, c'est un peu flippant. Hein.
C'est-à-dire que, bah oui, en fait, on peut reconnaître un enfant qui n'est pas le sien. Et a priori, il n'y a pas de poursuite pénale si une personne décide de reconnaître son enfant. Cependant, il faut quand même savoir qu'il y a toujours une action en contestation de paternité qui est possible. Voilà, donc un homme peut reconnaître un enfant, mais le lien de filiation pourra être remis en question. Un point notamment sur... on a dit qu'il n'y avait pas eu, il y avait pas de poursuite pénale dans ce cas-là. Cependant, les textes prévoient quand même une peine de 5 ans de prison pour les personnes qui reconnaissent un lien de filiation pour aider à l'obtention d'un titre de séjour ou pour la nationalité française. Voilà, 5 ans de prison, 15 000 euros d'amende. Nous, on rencontre quand même souvent des cas, enfin la préfecture qui conteste le lien de filiation souvent c'est en fait conteste le lien de filiation du père à l'égard d'un enfant, donc l'enfant devient français et la mère obtient un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il y a beau avoir aucune action de contestation de paternité, que ce soit de la part du procureur ou que ce soit de la part du père, la préfecture, elle, se permet de le contester. En disant souvent une suspicion, forte suspicion, et voilà, ça lui suffit à ne pas délivrer ce titre de séjour. Donc ça, c'est assez courant. Après, les cas de poursuite pénale, moi j'en rencontre pas trop, ils vont pas sur ce terrain-là, mais parce qu'à la fois ils savent, vu qu'il n'y a pas d'action de contestation de paternité, ils vont pas au pénal, juste ils refusent un droit au séjour d'une personne qui a le droit.
Et eux ne peuvent pas forcer un test de paternité pour voir si c'est vrai ou pas?
Pas encore. après, si on suit un peu leur je m'arrête là. J'ai pas l'air d'en être hésité.
Alors, du coup, quelles sont les conséquences quand même de la reconnaissance d'un enfant?
Les conséquences, elles sont importantes parce qu'il y aura des conséquences sur l'autorité parentale, comme on l'a évoqué, des conséquences notamment sur le droit de visite et d'hébergement si les parents se séparent. Lorsque le père a établi sa filiation, il a des droits de visite et d'hébergement sur les enfants. Et puis il y a des droits et puis des obligations, des devoirs, des obligations d'entretien. Voilà.
Alors du coup, là on a parlé de la reconnaissance volontaire. On va parler maintenant de l'établissement judiciaire de la filiation.
Philippe d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors, établissement judiciaire de la filiation, ça fait un peu peur comme ça. En gros, c'est quand on intente un procès pour établir la paternité ou la maternité d'une personne à l'égard d'un enfant, puisque dans certains cas, donc il n'y a pas eu de reconnaissance volontaire. Mais il faut savoir, on ne va pas en parler non plus en détail, mais que dans certains cas, il faut même d'abord contester la paternité d'une autre personne, puisqu'on a pu voir qu'un parent qui n'est pas le parent d'un enfant peut reconnaître un enfant. Et si on veut dire le père, ce n'est pas cette personne, mais c'est une autre personne, il faut d'abord contester le lien de filiation de la première personne. Généralement, on fait ça dans la même procédure. Mais alors, du coup, dans ce procès, qui agit et contre qui?
Alors, dans ce procès, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une action réservée. L'objectif, on le rappelle, c'est de permettre à un enfant d'établir sa filiation. Donc, on est sur la perspective de l'enfant, en fait. Donc, c'est une action qui est réservée par la loi à des personnes limitativement énumérées. L'enfant, déjà, lui-même, bien sûr. Et du coup, comme un enfant mineur ne peut pas agir en justice tout seul, on a également la mère de l'enfant qui, pendant la minorité de l'enfant, peut également faire cette action, mais parce qu'elle représente donc l'enfant en question. Avec aussi cette particularité dans l'hypothèse où, pendant la minorité de l'enfant, il y aurait des intérêts contradictoires entre la mère et l'enfant. Il existe une procédure pour permettre à ce qu'une personne soit désignée. Son nom, c'est l'administrateur ad hoc. Pour qu'une personne soit désignée donc par le juge pour représenter l'enfant spécifiquement pour la procédure et établir la paternité. Et enfin, dernière hypothèse, c'est dans le cas où l'enfant serait décédé. Les héritiers de l'enfant peuvent également mener cette action, mais c'est toujours la même logique. On considère qu'en fait, ils représentent l'enfant décédé, mais en tout cas, c'est bien toujours du point de vue de l'enfant qu'on se place. Après, sur cette action, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a des délais qui sont également encadrés pour le faire. Donc, la mère peut agir parce qu'elle représente l'enfant exclusivement pendant la minorité de l'enfant. à partir du moment où l'enfant est majeur, donc il n'y a plus que lui ou les héritiers qui peuvent agir. Et pour faire une action en justice, cet enfant, il aura seulement 10 ans, donc 10 ans à partir de sa majorité, donc jusqu'à l'âge de 28 ans. Et les héritiers, si l'enfant vient à décéder, donc ont le même délai, ça s'arrêtera donc 10 ans après la majorité de l'enfant. Juste une petite précision rapidement, puis on ne va pas développer trop là-dessus, mais c'est qu'il y a des cas où une action n'est pas possible. Premier cas, c'est le cas de l'inceste. L'inceste absolu, donc un inceste père-mère ou frère-sœur. Dans ce cas-là, en fait, il est impossible de faire une action pour établir la paternité. Et également, on en a parlé tout à l'heure, c'est le cas où l'enfant est soit adopté, soit placé en vue d'une adoption. Parce que l'idée, c'est que l'adoption, en fait, va prendre la place de la filiation biologique ou de la filiation établie autrement. Et donc, dans ce cas-là, là également, on ne peut pas faire d'action en justice pour établir la paternité.
Alors du coup, quand on va faire ce procès, on va introduire une action devant le tribunal de grande instance, ce qui veut dire que la représentation par avocat est obligatoire. Donc ça veut dire que si des personnes sont confrontées à ces difficultés, il faut savoir que de toute façon, elles auront besoin d'un avocat, donc elles auront des conseils. Le tribunal qui est compétent, c'est le tribunal du domicile du défendeur, ça veut dire c'est le tribunal du domicile du père présumé. Donc ça veut dire qu'on peut avoir justement des cas où du coup, on est obligé d'aller devant un tribunal qui est assez lointain, pour engager cette action.
Et comment est-ce que va se dérouler la procédure ?
Alors je vais aller rapidement là-dessus parce que c'est peut-être pas le plus intéressant aujourd'hui. Puis comme on disait, il y a un avocat qui va s'en occuper. Mais en gros, on fait délivrer une assignation par un huissier de justice au père présumé. Et ensuite, il y a une procédure qui va se dérouler devant le tribunal de grande instance. C'est une procédure écrite, ça veut dire que tout est développé dans des conclusions écrites avec des pièces justificatives. Et c'est généralement une procédure qui va se dérouler en deux temps, avant et après l'expertise biologique. Ça, on va en parler tout de suite de l'expertise biologique. Avec une particularité donc de cette procédure, c'est qu'elle est quand même communiquée au procureur, même si le procureur ne peut pas engager l'action, vu que ce sont quand même des actions qui sont importantes parce qu'elles touchent à l'état civil, c'est des procédures qui sont communiquées au procureur de la République, et c'est des procédures qui se déroulent en chambre du conseil parce qu'on touche à l'intimité, à la vie privée des gens. Juste sur cette procédure, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est une procédure qui est très longue, et que à Lyon par exemple en ce moment, je pense qu'on en est à 2 ans de procédure. Donc ça veut dire que quand on n'a pas reconnu un enfant ou quand on conteste la paternité, c'est vraiment pas anodin tout ça, parce que le temps de faire établir ce lien de filiation, ça va durer vraiment, vraiment très longtemps.
Ouais. Juste, est-ce que tu veux préciser ce que ça veut dire se dérouler en chambre du conseil ?
Ah pardon, oui, c'est que c'est à huis clos, ça veut dire que l'audience elle va pas être en public. Donc c'est comme ça que la procédure se déroule, mais la question principale c'est quand même de savoir comment on va prouver la paternité, le lien de filiation avec une autre personne.
Alors sur cette question-là, le Code civil a prévu que la paternité, les éléments qu'on apporte devant le tribunal se font par tout moyen. Par tout moyen, ça veut dire tout ce qui est possible et légal. Donc concrètement, ça va souvent être des témoignages, donc des attestations, des lettres éventuellement entre le père et la mère de l'enfant, ou le père même envers l'enfant, des photos, enfin tout type d'éléments donc, qui permettraient d'établir un lien. C'est ce qu'on appelle un faisceau d'éléments, un faisceau d'indices, donc qui viennent apporter suffisamment de raisons de penser que cette personne serait le père de l'enfant. L'expertise génétique, elle est possible, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas automatique, donc on ne peut pas compter exclusivement là-dessus. On ne peut pas se dire, je vais saisir le juge, demander une expertise pour savoir. Il faut en fait d'abord apporter des éléments au juge, de type lettres, témoignages, faisceaux d'indices, qui permettront de convaincre le juge de prononcer une expertise génétique. Parce que la deuxième chose qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'y a qu'un juge qui peut ordonner une expertise génétique en France, contrairement à d'autres pays, notamment en Europe. En France, donc, il y a seulement un juge qui peut ordonner cette mesure-là. Et deuxième précision aussi, c'est que pour avoir une expertise génétique, il faut l'accord express de la personne concernée. Donc là, en l'occurrence, le père, il faut son accord pour pouvoir procéder à cette expertise. Si le père est décédé, il fallait qu'il ait donné son accord donc de son vivant, sinon l'expertise génétique n'est pas possible. Donc le père est en droit, enfin le père ou la personne qu'on présente comme étant le père est en droit de refuser. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que concrètement, le refus d'une personne sans motif légitime va être interprété par le juge et donc n'empêchera pas en tout état de cause que la filiation puisse être rétablie quand même sur la base des faisceaux d'éléments réunis, et puis aussi le refus est parfois pris en compte en tant que tel comme un argument. Dernière aussi précision, c'est que les tests donc génétiques en France pour établir la paternité sont illégaux, considérés comme illégaux, donc ils n'ont pas de valeur. Tout d'abord, dans le cas d'une action en justice, je pense notamment au cas où quelqu'un va faire une demande de test génétique par Internet, puisque ça arrive souvent, ce test-là n'aura aucune valeur en France, voire même il pourra être considéré comme une infraction pénale, comme un délit, donc puni d'une peine d'1 an d'emprisonnement et d'une amende assez conséquente, dans l'hypothèse où on n'aurait pas recueilli l'accord de la personne vers laquelle on cherche à établir la filiation.
Donc du coup, c'est comme ça qu'on prouve le lien de paternité. Enfin, une fois encore, on parle que de paternité, mais c'est le cas le plus fréquent. Ça a des conséquences, évidemment, une fois qu'on établit ce lien de filiation. Et c'est des conséquences qui vont d'ailleurs être débattues dans le cadre de la procédure. Ça veut dire qu'on va retomber sur tout ce qui est lié au fait d'être parent d'un enfant. Ça veut dire qu'on va... alors, l'exercice de l'autorité parentale, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, s'il est établi un an après ou judiciairement, du coup, la personne à l'égard de laquelle le lien de filiation est reconnu n'a pas l'autorité parentale, mais elle peut demander par la suite ou dans le cas de la procédure à exercer l'autorité parentale. C'est une personne, du coup, un père qui peut exercer un droit de visite et d'hébergement. Alors là, c'est plus des questions qui se posent quand c'est un père qui a voulu établir son lien de paternité à l'égard d'un enfant et pas tellement quand c'est la mère qui a essayé de l'établir. Il peut demander dans ce cadre-là à exercer un droit de visite et d'hébergement. Et il va y avoir aussi la question de la pension alimentaire qui va se poser avec une grande particularité, et ça il faut peut-être attirer l'attention là-dessus, c'est que quand il y a une pension alimentaire qui est fixée par le tribunal de grande instance, quand on a établi judiciairement ce lien de filiation, il faut savoir que si, par exemple, la mère demande la rétroactivité de la pension alimentaire, le père peut être amené à devoir payer la pension alimentaire qu'il aurait dû payer depuis la naissance. Donc ça veut dire que parfois, quand une procédure... Alors déjà, la procédure n'a pas été engagée tout de suite, elle a été engagée quand le gamin avait 5 ans, et qu'après on a une procédure qui a duré à peu près 3 ans, et ben du coup, le père peut se retrouver avec 8 ans de pension alimentaire à payer. C'est important, du coup, juste un petit conseil pratique, même si il faut aller voir un avocat dans ces cas-là, pour quand même vérifier par rapport à votre dossier... Si vous êtes sûr d'être le père d'un enfant, il faut peut-être mieux le reconnaître que d'attendre que toute cette procédure se déroule et que vous retrouviez à payer une pension alimentaire rétroactivement. Je crois qu'on a fini, en fait on a dû aller un peu vite parce qu'on était à la bourre. Merci.
Eh bien, ce Canu Info touche à sa fin. On va vous laisser avec quelques secondes de bande continue, le temps à Idée Noire de s'installer. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.
Au revoir.